Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Je roule qu'en Porsche, BMW ou en Audi A3. Et quand je veux skier, je monte à Verbier ou Grand Montana. Je suis le parisien de la Suisse, un vrai narcissique, je ne vois que moi. J'aime pas les frous et tous ces péous de vaudois.
Bonjour à tous. Un certain racisme anti-français commence à s'exprimer ouvertement dans les zones frontalières suisses. Les 100 000 Français qui traversent chaque jour la frontière pour aller travailler à Genève sont de plus en plus mal vus. Des frontaliers attirés par des salaires 2 à 3 fois supérieurs aux salaires français et qui sont de plus en plus souvent dans le viseur des partis populistes. Plusieurs partis qui militent pour instaurer la préférence nationale à l'embauche. Des discours et des campagnes politiques qui créent des tensions certaines. Frontalier persona non grata, c'est un reportage de Katia Michel.
Infotrafic RTS.
Des bouchons et des ralentissements sont signalés sur le contournement de Genève entre Mérin et le tunnel de Vernier, ainsi qu'entre Perly et Bardonnay en direction de la France.
Chaque matin, chaque soir, c'est le même scénario. Des embouteillages interminables à la frontière en direction ou en provenance de Genève. Un trafic chargé, des difficultés de stationnement. Ajoutons à cela un taux de chômage plus élevé à Genève que dans les autres cantons. Et pour de nombreux résidents, c'en est trop. Le responsable de tous ces maux ne peut être que le travailleur frontalier.
Il y a trop frontaliers ici qui sont profiteurs, qui gagnent son salaire à Genève et dépensent l'argent en France parce qu'ils ne payent pas ici des impôts, ils seulement bénéficient ici. C'est ça qui le fâche, nous, les Genevois.
Il y a trop. Je suis infirmière et je ne trouve pas boulot tout le temps, mais ils sont là. Toujours, ils prennent le frontalier parce que je crois qu'ils payent moins.
Je sais que sur mon lieu de travail, il y a quand même pas mal d'animosité envers les frontaliers que les gens appellent les frouzes. Et dès que quelqu'un est embauché, dès que quelqu'un nouveau arrive, la première chose que les gens veulent savoir, il vient d'où ? De France ou de Suisse ?
Ça peut être une concurrence déloyale, en effet.
Ils sont là pour polluer Genève.
Si la parole est si décomplexée, c'est parce que le thème des frontaliers est allègrement exploité par les partis populistes ces dernières années. Le MCG, le mouvement citoyen Genevois, en a d'ailleurs fait son principal cheval de bataille. Le parti n'hésite pas à placarder des affiches au slogan « Sans détour ». Stop à l'invasion des Français. Les frontaliers, nos pires ennemis. Le parti a récemment déposé un projet de loi, les nôtres d'abord, visant à accorder la préférence aux résidents en matière d'emploi. Une directive déjà en vigueur dans l'administration publique. Mais François Berchy, le secrétaire général du MCG, se défend de vouloir faire la chasse aux frontaliers.
Nous sommes habitués à ce genre d'attaque. En fait, le MCG répond à une préoccupation des habitants du canton de Genève se retrouve dans une situation de concurrence déloyale face à une main-d'œuvre frontalière. C'est une réalité, il y a une tension sur le marché du travail, il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a un dumping salarial de la part des frontaliers, il y a aussi une utilisation par certains employeurs privés des frontaliers qui n'est pas acceptable. Il est certain que les frontaliers auront toujours leur place à Genève, mais il y a une priorité pour les résidents genevois qui doit être là et qui doit s'inscrire de manière très claire, de manière beaucoup plus claire qu'elle ne l'est actuellement.
Marie Maurice, journaliste française installée en Suisse, a mené un fastidieux travail d'enquête sur le malaise des Français. Son enquête a donné lieu à la publication d'un ouvrage, « Bienvenue au paradis », un recueil de témoignages parlant.
Il y a toutes sortes d'anecdotes vécues par les Français qui vivent ici ou qui sont frontaliers. Donc les Français sont accusés d'être toujours en retard, ce sont des flemmards. Ils ont la réputation d'avoir une hygiène un peu vacillante. Ils conduisent très très mal. Ils sont très carriéristes, très ambitieux. Ça c'est pour les réflexions. Après il y a les faits. Donc il y a aussi des attaques physiques, par exemple des pneus crevés, des voitures abîmées aux personnes qui ont des plaques d'immatriculation française. Ça c'est quelque chose de très fréquent. Et puis il y a aussi toute la discrimination sur le marché du travail et du logement. Certains chefs d'entreprise ont décidé de ne plus engager de Français parce que ça crée des mauvaises ambiances dans les équipes. Et puis, du coup, ces Français sont accusés d'être râleurs et flemmards et syndicalistes, et, etc. Donc, certains patrons préfèrent ne pas les engager et certains propriétaires disent ouvertement qu'ils ne souhaitent pas de locataires français chez eux.
Mais dénoncer certaines discriminations à l'égard des Français est encore un sujet tabou. Le livre a fait scandale au point que Marie Maurice a dû faire face à des menaces physiques.
Oui, oui, j'ai reçu des menaces de gens qui me disaient « si tu pars pas d'ici, tu vas comprendre ta douleur ». Évidemment, personne ne m'a jamais giflé, même si à un moment j'ai eu un petit peu peur, j'ai rasé les murs. Mais c'est vrai que ça a été assez difficile à vivre pour moi. Et en même temps, ça prouvait de fait que ce que je disais dans le livre était en bonne partie vrai et qu'il y a un problème, un gros malaise qui s'est accentué entre les Suisses et les Français depuis une dizaine d'années. Pour moi, évidemment, le mouvement de malaise entre les Suisses et les Français a été instrumentalisé par le pouvoir politique. Et pour moi, ça vient aussi du fait que le premier parti du pays, l'UDC, l'Union démocratique du centre, a quand même un discours xénophobe assez fort et là aussi très banalisé, très assumé, qui fait que les gens ne se choquent pas d'entendre des propos ouvertement racistes. Mais c'est sûr que pour moi, c'est un domaine où la Suisse a vraiment des gros progrès à faire.
En 2011, ces tensions avec les Français ont conduit au drame. Le meurtre d'un frontalier, cadre des transports publics genevois, par l'un de ses salariés. Le tribunal n'a pas retenu le mobile xénophobe, même si le meurtrier était connu pour ses propos haineux envers les frontaliers. Plusieurs collègues du meurtrier ont d'ailleurs salué son geste. Un acte heureusement isolé, mais qui démontre le profond malaise entre les deux voisins.
Je commence ce livre par la fin. Et j'ai le menton haut pour rien.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Alors ils ont moins de 30 ans et ont déjà bien réussi chacun à leur manière. 30 jeunes Européens distingués par le magazine Forbes qui pour la seconde année consécutive dresse une liste des jeunes à suivre cette année. Alors, qui trouve-t-on, Eve ?
En réalité, ils ne sont pas 30, mais plutôt 340, identifiés dans une dizaine de secteurs, les arts, les médias, mais aussi les nouvelles technologies, la science, la politique, le sport. Le magazine économique insiste beaucoup sur la nette économie, d'ailleurs pourvoyeuse de jeunes entrepreneurs. L'intérêt de ce genre de classement, ce n'est pas tellement de distribuer les bons points, mais plutôt de donner un coup de pouce à la carrière de ces jeunes, et notamment d'attirer le regard des investisseurs. Cette année, la moisson est plutôt bonne. Côté français, ils sont 26 à avoir été retenu contre 23 l'année passée. Cela représente en tout 8% des jeunes à suivre en Europe, selon la publication. La parité est respectée côté français, mais à l'échelle européenne, les hommes sont encore un peu surreprésentés, 64% des retenus pour une moyenne d'âge de 25 ans.
Alors, qui sont ces célèbres français qui ont tapé dans l'œil du magazine américain ?
On retrouve la jeune chanteuse Héloïse Letissier, 28 ans, plus connue sous son nom de scène, Christine and the Queens, qui décidément fascine à l'étranger puisqu'après avoir fait la couverture d'un autre magazine américain, le Time, elle vient de s'offrir une nomination aux prestigieux Brit Awards, les victoires de la musique au Royaume-Uni. On retrouve également la boxeuse Estelle Mosley, 24 ans, médaille d'or à Rio. Mais là où les jeunes françaises sont le plus nombreux, c'est dans la rubrique entrepreneuriat social.
Entrepreneuriat social ?
Alors l'entrepreneuriat social, c'est une manière d'entreprendre qui place l'efficacité économique au service de l'intérêt général. C'est-à-dire que pour ces jeunes, chefs d'entreprise, donc le profit est plus le moyen qu'une fin en soi. Dans cette catégorie, plusieurs Français sont distingués. Vous avez peut-être entendu parler de Singa, S-I-N-G-A, une ONG qui met en relation des réfugiés et des particuliers. Eh bien cette ONG, on la doit à Guillaume Capel, un jeune Français de 29 ans. Ont aussi été retenus Soazic Barthélémy, 27 ans, qui a créé une entreprise de soutien aux femmes entrepreneurs à travers le monde, ou encore Joséphine Goub, CEO, comme on dit, c'est-à-dire présidente directrice générale de TechFugees, déjà repérée l'an dernier, Guillaume Fourdinier et Gonzague Gru, cofondateurs d'Agricool, et Benjamin Dupéy, fondateur de Centimeo, qui propose de collecter les centimes d'euros qui s'entassent dans nos poches et dont nous ne savons pas toujours quoi faire, une sorte d'opération pièce jaune au XXIe siècle.
Alors les Français sont absents dans deux catégories, médias et arts. on ne peut pas être bon partout.
On retiendra par contre le jeune chef espagnol qui monte, David Andrés, ou encore la créatrice de bijoux italienne Beatrice Bongiasca, 26 ans, et l'artiste Luisa Gagliardi qui vient de Suisse et que le magazine surnomme la Dali du digital. Dans la catégorie médias, plusieurs correspondants de grandes publications ou diffuseurs ont été retenus, comme la britannique Shaya Siyal, 25 ans, qui a couvert le Brexit pour la BBC, ou encore l'allemand Klaas Relotius qui a effectué plusieurs reportages en Irak pour le très sérieux hebdomadaire allemand Der Spiegel.
Et cette année, qui est le Benjamin ou la Benjamine de cette sélection ?
Alors à 17 ans, le jeune espagnol encore mineur Alex Sicard Ramos fait partie des personnalités retenues par Forbes. Il faut dire que le jeune homme n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a créé sa première plateforme en ligne à destination de ses camarades étudiants à 13 ans. Autre phénomène, Luca Todesco, 19 ans, italien. Considéré comme l'un des plus grands hackers de sa génération, il vient tout juste d'être enrôlé par le géant Apple pour renforcer la sécurité de ses célèbres téléphones portables.
Merci Evmino, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'est une grande première en Bosnie. Un Rom a été élu président d'un conseil municipal aux côtés du maire dans la ville de Zavidovici, municipalité d'un peu moins de 40 000 habitants à une centaine de kilomètres de Sarajevo. L'élu est issu de la communauté la plus vulnérable du pays, écrasée par la pauvreté et lourdement discriminée dans l'accès à l'éducation et à l'emploi. Alors est-ce que cette élection est le signe que les mentalités évoluent ? Pas sûr. Deux mois après sa prise de fonction, son élection continue à susciter des tensions. Le reportage de Mercia Nezic.
La première séance du conseil municipal présidé par Edjo Seferovic lui a déjà valu des sarcasmes. Quelques hésitations suffisent pour susciter des moqueries. Des élus les ont mises en ligne sur YouTube pour dénigrer leurs collègues roms. Il en a été blessé, mais pas surpris.
Nous les Roms, on est habitués à vivre avec ça, à être insultés, humiliés, dénigrés, à être pris à partie par des gens dans la rue qui crient « El Zigan ».
Le mot tzigane est utilisé dans le langage courant en bosnien, serbe ou croate comme un qualificatif insultant, c'est dire l'ampleur de la stigmatisation subie par cette communauté dans les Balkans. D'ailleurs, depuis son élection, Radjo Seferovic est victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Des publications inappropriées signées de son nom circulent.
J'ai dû expliquer à tout le monde que je ne suis pas à l'origine des inscriptions sur ma page Facebook, qu'elle a été hackée. J'ai été insulté, ma mère Zigan a été insultée, mes enfants ont été menacés, moi aussi d'ailleurs. Les gens disent qu'on n'a pas besoin d'un Zigan comme président du conseil municipal. Et puis il y a des collègues, des habitants de la ville mécontents de me voir occuper cette fonction.
Les 750 Roms établis ici vivent entre eux dans trois quartiers bien à l'écart de la ville. Le seul Rom de Zavidovici à avoir un emploi est le nouvel élu et les pompiers professionnels. Les autres survivent en ramassant de la ferraille pour la revendre. Ils font les frais d'une lourde stigmatisation, estime Radjo Seferovic.
Peu de gens fréquentent ici les Roms. Personne ne les emploie. Le patron d'une simple station de lavage de voitures ne veut pas employer de Roms. Il a peur d'être volé ou d'avoir des problèmes. Et moi, je vous le demande, est-ce que vous avez déjà entendu parler du cas d'un Rom qui aurait commis des crimes contre l'humanité pendant la guerre, qui aurait tué ou violé ? Et non, ça ne s'est jamais produit.
Seules quelques dizaines d'enfants roms de la ville vont à l'école et très peu au-delà du collège. En Bosnie, 2 élèves roms sur 10 accèdent au lycée. Les parents à Zavidovici souhaitent que le nouvel élu les aide à faire scolariser leurs enfants. Hassan espère beaucoup de cette élection.
Il est bien, Radjo. C'est le seul qui est bien au conseil municipal. Et il est bien avec tout le monde. Lui ne regarde pas les gens en fonction de la communauté dont ils sont issus. Je suis sûr qu'il va aider tout le monde, mais d'abord, et c'est normal, les roms.
Pour ce faire, en plus d'un conseil municipal parfois hostile, l'élu doit composer avec un maire bosniaque. Particularité du millefeuille administratif bosnien, chaque ville est administrée par un maire et un président de conseil municipal. Alors pourra-t-il réellement peser pour améliorer le sort des Roms de la ville ? Il en doute déjà.
Ça va être difficile. Si vous n'avez pas de soutien, si on ne collabore pas avec vous, c'est dur de faire bouger les choses. J'ai peur de ne pas pouvoir faire grand-chose.
Ici, personne ne cache son découragement. Ancien fleuron de l'industrie du meuble yougoslave, la ville ne s'est pas remise de la guerre 20 ans après. 67% de la population est au chômage. Les façades des immeubles sont décrépites. La pauvreté touche tout le monde. L'élection d'un Rom au conseil municipal et les menaces qu'il reçoit laissent froid ce commerçant.
Allez, on est tous discriminés ici. Si tu n'as pas de boulot, tu n'as pas les moyens de vivre décemment. C'est de la discrimination aussi. Avant la guerre, ici, 12 ou 13 000 personnes travaillaient dans une grande usine de la ville. Maintenant, il n'y a rien. On manque de tout. Et de toute façon, ceux qui peuvent vraiment faire bouger les choses sont les politiques à Sarajevo. Ceux d'ici n'ont aucun pouvoir.
À Sarajevo, justement, peu de choses avancent. La preuve, le pays a été condamné il y a 7 ans déjà par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa constitution discriminatoire. Issue des accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre en 1995, elle réserve la présidence collégiale du pays aux seuls bosniaques, serbes et croates. Ainsi, un juif ou un rom en sont automatiquement exclus. La constitution n'a toujours pas été modifiée malgré les pressions de la communauté internationale. Le maire bosniaque de la ville se targue, lui, d'être meilleur élève que le gouvernement. Il espère surtout en tirer profit à Asim Mujanović.
La communauté internationale ne parle que de l'application du jugement rendu dans l'affaire Sedij Finci. Nous l'appliquons. Alors maintenant, aidez-nous à résoudre les problèmes de la population rom de Zavidovici grâce à vos fonds. Le nouvel élu pourrait être le coordinateur de ces projets, faire le lien entre les fondations, les organisations internationales et le terrain. Il pourrait s'occuper de l'implantation de ces projets qui nous aideraient à résoudre ces problèmes.
Cette élection d'un président de conseil municipal rom apparaît surtout comme une opération de communication, un moyen pour le maire de faire parler de la ville et d'attirer des fonds d'aide européens et internationaux. On est encore loin de l'acceptation des Roms.
Y en el campo de Argelès-sur-Mer nos fuimos a enterrar para no comer.
À la frontière franco-espagnole, la Jonquera est plutôt fréquentée par les touristes étrangers pour ses magasins d'alcool et son tabac moins cher, ainsi que pour ses maisons closes, beaucoup moins pour son musée mémorial de l'exil, ou MUM, un lieu qui perpétue le souvenir de l'exil en 1939 des républicains espagnols et catalans. Martine Pouchard.
C'est le musée du souvenir de la tragédie, documents, archives d'époque, photos, témoignages. C'est une page d'histoire que l'on découvre au musée de la Jonquera. En 1939, Franco et ses troupes remportent la victoire. Les républicains espagnols doivent quitter le pays, un exode qui va les mener en France. Femmes, enfants, vieillards, en guenilles, épuisés, terrorisés, munis de quelques biens, rejoignent la frontière. Les hommes ne sont pas les bienvenus, on les refoule. Le gouvernement français est vite débordé et n'accueille pas ses réfugiés les bras ouverts. L'illustration, le magazine de l'époque, rapporte les faits, parle de la tragédie espagnole. L'exode des Espagnols en France, peut-on lire, a pris de telles proportions qu'il est proprement inimaginable. C'est un peuple qui déferle. La horde, je cite, avance par tous les chemins qui descendent de la montagne. On parle de véritables calamités et le journal de poursuivre. Pourtant, dès qu'ils se savent en France, on les sent libérés au moins d'une chose, de l'obsession de la mort. Pourtant, les Français critiquent ces militaires de l'armée républicaine traités d'arrogants, car même vaincus, ils gardent la tête haute. Ils sont fouillés, désarmés. Tous ces réfugiés seront dirigés vers des camps, à Argelès-sur-Mer par exemple, ou à Rivesaltes. Beaucoup sont ensuite livrés aux Allemands et internés dans les camps de concentration. Certains ne reviendront pas. On calcule que près de 500 000 personnes ont passé la frontière dès 1939. Plus tard, à cause de la répression durant les 40 années du franquisme, opposants au régime, intellectuels, politiques, ont dû quitter le pays. Émigrés, expatriés, exilés, réfugiés, pour des raisons ethniques, religieuses, politiques. Depuis toujours, comme le montrent les témoignages réunis au musée, l'histoire se répète. Les migrations politiques sont une terrible constante dans le destin de l'humanité. Plus que jamais, cette visite nous interpelle sur le destin de ceux qui, aujourd'hui encore, fuient la violence et la guerre.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette émission. On se retrouve demain dès 12h40, temps universel, pour une nouvelle édition d'Accent d'Europe. Et on se retrouve tout de suite sur RFI.fr à la page émission.
l'émission.